au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 11 mars, journée assez particulière, très tranquille partout. Les gens sont restés à la maison, on peut bien le constater, avec le verglas qui tombe présentement sur la Naudière. On va toucher du bois parce que ça se passe bien. Pour le moment, pas beaucoup de panne d'électricité à signaler. À l'émission aujourd'hui, avec Pierre Paquette, il sera question de l'état pitoyable du NPD. On va parler aussi avec Jean-Louis Bray, il est président du syndicat de l'enseignement de la région des Moulins. Il sera question de violence à l'école. Également à l'émission, Mathieu Jean-Marie, les présidents du domaine du Jeune Saule de Terrebonne. On va parler de santé mentale chez les jeunes, mais tout d'abord avec le passage chez les libéraux de la députée néo-démocrate du Nunavut, Laurie Igloot. On sent que les libéraux là, continuent à se magasiner une majorité là, chez les membres de l'opposition, qu'ils soient conservateurs ou même encore néo-démocrates. Et dans la perspective où deux des élections partielles du 13 avril auront lieu dans des châteaux forts libéraux en Ontario. Ben, qu'est-ce qui va rester de l'importance de celle dans Terrebonne? François Morin échange là-dessus avec notre analyste politique Mathieu Bélanger.
Mathieu Bélanger, on a vu au cours des dernières semaines trois députés conservateurs traverser la Chambre pour joindre les libéraux de Mark Carney. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'une députée néo-démocrate fasse de même?
La députée concernée, donc la députée du Nunavut, Mme Laurie Igloot, avait été déjà approchée par les libéraux pour traverser la Chambre, mais à ce moment-là, avait rejeté ça. Là, elle a décidé de traverser, de se joindre aux libéraux. Donc, c'est en ça que, pour ça que la réponse est oui et non. Il y a déjà eu des tentatives auprès d'elle. Et on sait que des tentatives auprès de d'autres députés aussi. Mark Carney, on l'a mentionné à plusieurs reprises, tente de devenir majoritaire sans passer par les élections générales et semble en très bonne voie d'y arriver quand même relativement court terme si la tendance se maintient. C'est-à-dire que avec ce gain-là pour le Parti libéral est actuellement 170 députés, ça en prend 172 pour être majoritaire. Il y a trois élections partielles qui s'en viennent, on a déjà parlé, le 13 avril, deux dans la région de Toronto qui sont des considérés comme des châteaux forts libéraux, puis qu'on s'attend vraiment à ce que ça vote de nouveau libéral. En ce sens-là, le Parti libéral tomberait à 172. Et il y a Terrebonne, on sait qu'il est excessivement contesté comme circonscription, dans le sens où bien malin qui pourrait prédire de quel côté ça va basculer entre les libéraux et le Bloc québécois. À 172, le Parti libéral devient majoritaire, mais vraiment de justesse, puisque le président de la Chambre est un libéral, ce qui prive jusqu'à un certain point les libéraux d'un vote, c'est-à-dire que le président va trancher en cas d'égalité, mais pas nécessairement toujours du côté du Parti libéral. Il y a une historique quand même que le président ou la présidence va trancher en définitive pour maintenir le statu quo si c'est cette personne-là, le président, qui doit trancher. Donc, le vote à Terrebonne demeure important, non pas pour franchir la barre symbolique du palier majoritaire, mais pour donner une majorité un peu plus réelle au Parti libéral, donc de pouvoir adopter des projets de loi sans compter sur le vote de la présidence. Mais encore une fois, toujours avec le même défi, si tous les députés libéraux sont présents, ça demeure une majorité, demeurerait une majorité très fragile. C'est pour ça que les libéraux continuent à faire des approches aux côtés de d'autres personnes pour obtenir une majorité un peu plus confortable quand même. On sait là que des choses peuvent se passer ici et là. Par exemple, dans la circonscription de Rosemont ou Alexandre Boulris, on s'attend à ce qu'il quitte son siège et ça pourrait basculer du côté des libéraux. Alexandre Boulris, le député actuellement du NPD. Mais de l'autre côté, pour avoir un paquet de situations dans lesquelles un député libéral ou autre démissionne, décède, décide de traverser la Chambre d'un côté ou de l'autre. Donc, ça demeure très fragile, évidemment, cette majorité-là. Mais quand même, avec cette députée-là du Nunavut qui traverse, ben ça vient quand même d'ouvrir plus largement la voie de passage pour obtenir la majorité et aussi éloigner là, le spectre du déclenchement d'une élection générale. Mark Carney va en avoir quand même moins de besoins là, à court terme.
Mais faut s'attendre à ce qu'il y ait des efforts qui soient effectivement consentis dans Terrebonne, comme je le mentionnais en début de semaine. Il y aura une sérieuse parade des chefs et des députés qui viendront appuyer leur candidat, leur candidate.
Leur candidate, Tatiana Auguste, effectivement, même si c'est plus Terrebonne qui va déterminer si on est majoritaire ou pas, en tant que tel, encore une fois, parce qu'on sait pas mal dans les deux autres élections partielles qui auront lieu au même moment de quel côté ça va basculer, ça demeure un comté qui va rester névralgique et très compétitif entre le Bloc québécois et le Parti libéral. En ce sens-là, le Parti libéral a tout intérêt à tout faire pour gagner cette circonscription-là, pour donner une majorité plus réelle, justement, être capable de faire adopter son agenda législatif. Et on sait que le paquet y est mis dans les jours précédents, le vote. Il y aura un événement du Parti libéral d'organiser à Montréal. Montréal, c'est pas très loin de Terrebonne. On peut s'imaginer que beaucoup de monde vont être appelés à venir après ça traverser le pont pour venir donner un coup de main à Terrebonne. Sur le terrain des vaches, actuellement, on voit que l'affichage, la campagne d'affichage du Parti libéral est très agressive actuellement. Il y a beaucoup d'affiches du Parti libéral qui sont présents. Il y a une lettre qui a déjà été envoyée par McCarney il y a quelques jours, invitant déjà, avant même le déclenchement de l'élection partielle, invitant les électeurs, les électrices à voter pour le Parti libéral. D'autres dépliants publicitaires de Tatiana Auguste, la candidate libérale aussi, qui ont été envoyés par la poste, mais par des bénévoles dans les résidences au courant des derniers jours. Donc, le Parti libéral veut remporter cette victoire-là. Ça l'aiderait beaucoup. Beaucoup, c'est pas complètement incontournable. Le Parti libéral va survivre même si le Bloc québécois gagne, mais ça l'aiderait beaucoup. En réaction, on peut s'imaginer que le Bloc québécois aussi va vouloir mettre beaucoup d'énergie dans la même circonscription pour les mêmes raisons. D'autant plus que si le Parti libéral demeure minoritaire, ben ça continue à donner une poignée un peu plus grande au Bloc québécois, dit François Blanchet. Avec sa candidate, là, Nathalie Sinclair, de gagner ici à Terrebonne, pour essayer d'influencer l'agenda législatif, les décisions du gouvernement. Alors que s'il devient majoritaire, ben, le Bloc québécois, comme le Parti conservateur et le NPD, ont un peu moins de pouvoir. Donc, beaucoup de choses vont quand même se décider à Terrebonne, même si c'est plus strictement juste le sort de majoritaire ou minoritaire. Ça demeure une élection là hautement importante à Terrebonne.
Voilà, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger. On aura l'occasion de revenir un peu sur le sujet un peu plus tard, oui, au cours de l'émission avec Pierre Paquette, où il sera question de la débandade du NPD. Dans un moment, on vous présente Mathieu Jean-Marie, il est président du domaine du Jeune Soul de Terrebonne. Il sera question de santé mentale chez les jeunes.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Pourquoi BDC pour mon entreprise? Je sens que c'est le moment, là. Ça bouge, l'économie change. On me parle d'automatisation, d'intelligence artificielle, puis moi, je me dis, faut que je me lance. J'ai besoin d'un prêt, mais aussi d'un vrai coup de main, quelqu'un qui m'accompagne, là, pour vrai, puis qui va m'aider pour les prochaines étapes. Maintenant, là, pas plus tard.
Préparez la suite avec BDC. Obtenez du financement et des conseils adaptés à vos projets. Découvrez comment à bdc.ca/financement. BDC, financement, conseil, savoir-faire.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 30 juin 2026. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Revivez le spectacle unique du 40e de CFNJ. Vous avez manqué la soirée grandiose du 17 janvier? Ben, manquez pas votre chance de réentendre tout ça. Le samedi 21 mars dès 15h dans Weekend Trad, revivez en version intégrale cet événement unique. Une quinzaine des plus grands artistes trad de Lanaudière réunis sur scène autour de Mathieu Marion, André Brunet, Francis Morin et Pierre-Luc Dupuis. Et bon, bon, bon. Revivez ce spectacle unique.
Je suis fier de CFNJ.
Le samedi 21 mars dès 15h à CFNJ.
Excusez-la.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant du Kicks Play S 2025, le véhicule le plus abordable au Québec à partir de seulement 22 774 plus taxes au comptant, incluant les frais de transport et de préparation. Nous avons plusieurs choix d'inventaire de disponibles. N'attendez plus. Passe en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour faire un essai routier. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Lanaudière PM, communautaire.
Un projet unique au Québec devrait voir le jour en septembre prochain dans la MRC des Moulins, nouvellement créée, la Fondation du Jeune Soul. C'est un organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement là, qui prévoit ouvrir une clinique de thérapies alternatives qui s'adresse aux jeunes, aux prises notamment avec des enjeux de santé mentale. Et Régent Turgeon a rencontré Mathieu Jean-Marie, le président du conseil d'administration et cofondateur du domaine du Jeune Soul de Terrebonne.
Monsieur Jean-Marie, peut-être d'entrée de jeu nous préciser, d'où vient l'idée de lancer la Fondation du Jeune Soul et c'est quoi sa mission?
Sa mission, c'est d'offrir des thérapies alternatives, des thérapies adaptées aux besoins uniques de chaque jeune, donc qui s'adaptent au médium qui peut aider le jeune, dans le fond, à se développer, à se reconstruire, à se retrouver, mais qui le rejoint pour le moment de sa vie où ce qu'il y a un besoin d'aide.
On comprend que la Fondation a une clinique qui, justement, va s'adresser à des jeunes. C'est qui cette clientèle-là? Où la trouve-t-on?
La clientèle va venir de partout. Dans le fond, que ce soit du bouche-à-oreille ou quelqu'un qui voit l'organisme, qui n'a entendu parler, on va être présent dans les écoles. On va aussi, on veut bâtir une collaboration avec le CIS, dans le fond, pour être un référencement avec les cliniques privées aussi de la région, les GMF, les garderies, donc et des partenariats avec les organismes aussi qu'il y a dans la région.
On parle d'enjeux qui, semble-t-il, ne sont pas encore graves, mais qui pourraient le devenir. Il y a question beaucoup de santé mentale ici.
Oui, ben dans le fond, les services de thérapie alternative sont pour les jeunes seulement, donc de 0 à 18 ans. C'est un premier projet comme ça au Québec qui regroupe plusieurs médiums. On parle de sport-thérapie, d'art-thérapie, okay, de zoothérapie, de musicothérapie, puis de thérapie assistée par le cheval. Okay. C'est des médiums qui sont prouvés comme étant innovants, qui fonctionnent, et la détresse actuellement chez les jeunes est très grande. Surtout depuis le COVID, on le voit, les anxiétés, les dépressions ont explosé, la cyberdépendance, les enjeux de genre, et j'en passe. Donc, on voit des difficultés et des énormes besoins qui sont durs à combler. Les temps d'attente sont longs. Il y a même des manques de psychologues pour les jeunes au privé où ce qu'on n'en trouve pas. Là, t'sais, même nous, l'idée est venue de moi et ma conjointe qui est aussi cofondatrice. Myriam a travaillé au public pendant plusieurs années, justement, avec les enfants en difficulté. Donc, le projet est venu de cette expérience-là, okay, du mien, de mon passé de métier de pompier de 15 ans à Montréal, mais aussi parce qu'on a eu un enjeu avec l'une de nos filles et on a voulu chercher de l'aide, puis ça a été extrêmement difficile malgré que ma conjointe est dans le système, a des groupes. Donc, on s'est dit, mon Dieu, imagine si nous, on a de la misère, à quel point certains gens qui ont pas ce réseau-là peuvent être dans la détresse. Puis quand on est un parent, puis on voit notre enfant qui a des difficultés, ce qu'on veut, c'est le plus rapidement possible être là pour l'aider, être là. Puis quand on est démuni, qu'il n'y a pas d'option, ben c'est un peu qu'est-ce qu'on a vécu. Puis on s'est dit, c'est assez, faut essayer de faire de quoi. Donc, on a ce projet-là qui a vu le jour, ouais, il y a un an, qui est en train de se bâtir. On est allé chercher des partenaires, on est allé des partenaires majeurs. On a commencé à construire les infrastructures pour amener ce nouveau projet-là, qui est un complément vraiment au système actuel, où ce que qui va ouvrir en septembre prochain. Les thérapies, dans le fond, alternatives, c'est un médium de communication qui est vraiment différent au niveau des jeunes. Donc, ce qui qui change de la thérapie traditionnelle, qui est simplement un lien verbal, un lien de communication, ce qui est plus difficile des fois à avoir avec les jeunes, qui peut prendre 4, 5, 6 séances avant de réussir à faire le contact. Ben le médium alternatif, comme exemple la sport-thérapie ou l'art-thérapie, va permettre un moyen de communication différent pour faire le lien avec le jeune, puis c'est prouvé que c'est beaucoup plus facile de rentrer en communication avec le jeune, puis rendu là de pouvoir avoir une action pour l'aider, puis le soutenir.
On parle d'accompagnement personnalisé dans les faits, là.
En quelque sorte, oui, exactement. C'est sûr qu'il y a un peu un triage là, en rentrant là, quand le jeune ou le parent applique là, à l'organisme pour que son jeune soit suivi. Donc, après ça, il y a une analyse qui est faite pour voir quel médium va lui convenir le plus pour la thérapie. Donc, effectivement, ça ressemble un petit peu à un médium personnalisé, une thérapie personnalisée, mais qu'est-ce qui est choisi, c'est qu'est-ce qui va aider le plus le jeune à se reconstruire puis à pouvoir suivre.
Est-ce qu'on parle de thérapies qui sont nécessairement ou obligatoirement reconnues par le ministère de la Santé et des Services sociaux?
C'est des thérapies qui sont reconnues. Il y a des statistiques qui prouvent à quel point elles sont bénéfiques. Chacune d'elles envers même les adultes. Là, il y a déjà des programmes là, qui sont en place. Okay. Donc, nous autres, le but, c'était d'exploiter ces thérapies-là avec les jeunes pour les aider, puis aussi casser le tabou de la santé mentale. Et pourquoi... Comment casser ce tabou-là si c'est pas avec les jeunes justement pour réussir à construire cet élément-là favorable pour eux de s'ouvrir puis de communiquer.
Vous voilà en pleine campagne de sociofinancement. Vous avez besoin d'un nouveau bâtiment pour la Fondation. On parle d'un projet de 2,7 millions de dollars.
Alors, on a fait l'annonce officielle en février passé de l'organisme. À ce moment-là, on était rendu à 1,7 million sur le 2,7. Et on est déjà débuté la construction. On est rendu à la finition intérieure là, qui commence bientôt. Donc, notre but de faire l'annonce aussi tardif, c'est de s'assurer que le projet était... certains, et à la date d'ouverture aussi. À ce moment-ci, on est déjà rentré à 1,9 million, donc vers l'ouverture de septembre. Comme nouvel organisme, on n'a pas accès à des subventions encore avant la deuxième année. Donc, il faut avoir au moins un an d'opération avant de pouvoir faire ces demandes-là. Donc, où ce qu'on est rendu au statut de la campagne actuellement, c'est que toutes les infrastructures, les aménagements font partie justement des dons où ce qu'on est rendu. Donc, tous les prochains dons vont être pour la thérapie directement pour les jeunes. Donc, c'est pour garantir nos trois premières années. Juste pour vous faire un peu un exemple, 1 000 $ de don vient accompagner un jeune pour une thérapie complète. Donc, on parle d'une thérapie complète qui est en moyenne 10 thérapies. Donc, un don de 1 000 $, on réussit à accompagner un jeune complètement pour toute sa thérapie et son accompagnement.
Régent Turgeon qui rencontrait donc Mathieu Jean-Marie, les présidents et cofondateurs du domaine du Jeune Saule de Terrebonne. Très intéressant, à preuve que thérapie alternative ne veut pas nécessairement dire charlatanisme. Il est 16h24. Si on regarde présentement, oui, c'est de la pluie verglaçante là, sur la Naudière, nord de la région, secteur Manawan. On est dans la neige dans le secteur de Manawan et on sait inquiétait pour les pannes d'électricité jusqu'à présent. Ça se passe quand même assez bien pour la Naudière, mais il y a des données qui démontrent que les intoxications au monoxyde de carbone augmentent plus lorsqu'on se retrouve en situation de tempête de verglas en raison des pannes d'électricité. Et le docteur Martin Laliberté, c'est un urgentologue, il indique qu'encore trop de gens vont, par exemple, en situation de panne électrique, rentrer de l'équipement de camping dans la maison, un poêle au propane ou encore un barbecue dans le garage ou pour cuisiner, se réchauffer là, dans la maison. Et c'est à ce moment-là que des gens vont s'intoxiquer sans s'en rendre compte parce que ce gaz est inodore et n'a pas de propriété irritante. Et le docteur Martin Laliberté appelle donc à la vigilance puisque les conséquences là, sont très graves. On l'écoute.
Les conséquences peuvent être dramatiques. C'est une intoxication qui est potentiellement mortelle. C'est en fait, en toxicologie médicale, la cause principale de mortalité. On en voit beaucoup à chaque année et c'est sûr que les conséquences elles peuvent être très sérieuses. Non seulement ça peut causer la mort, mais également ça peut causer des complications neurologiques assez importantes.
me souviens de nombreux cas comme ça là, à la fin des années 90, lors de la crise du verglas. Il est 16h26.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bon, il n'y a pas de bouchons présentement sur les routes, mais ce qu'on surveille de près, c'est les conditions routières. Par exemple, la 40 entre La Valterie et Trois-Rivières, on parle de chaussées couvertes et de visibilité réduite. Prudence dans le secteur. Route 158 entre Saint-Esprit et Saint-Jérôme, chaussée enneigée, la visibilité est quand même assez bien. Et aussi à surveiller la 125 entre Saint-Esprit et Saint-Donat, la chaussée est couverte, la visibilité quand même bonne dans ce cas-là. Dans un moment, l'actualité avec Pierre Jubinville.
Le vol AB-745 est annulé.
Évitez tout voyage en raison des manifestations.
À la suite du passage de l'ouragan, les hôtels sont fermés.
Vous prévoyez un voyage? Personne n'est à l'abri des imprévus. Protégez votre argent. Achetez votre voyage d'une agence qui a un permis du Québec. Vous profiterez gratuitement des avantages du fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Informez-vous au québec.ca/agence-voyage-protection. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement 398 $ plus taxes par mois, sans aucun comptant initial. Chez Joliette Nissan.
Dans la Naudière, on prend le temps. Le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Combattre le froid par le froid. C'est ce que propose la fromagerie Victoria de Berthierville avec sa crèmerie ouverte à l'année. Crème glacée molle, Vic Mix, Sundae, Slush, trempage de chocolat belge, on en a vraiment pour tous les goûts. En salle à manger, au service au volant ou en livraison, pas besoin d'attendre l'été pour vos plaisirs glacés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
L'actualité de... Oui, l'actualité de ce mercredi 11 mars en manchette. Le gros de la tempête de verglas se fait attendre. Il y a des résidents évacués du côté de Saint-Roch-de-la-Chigan et 400 millions de barils de pétrole ont été libérés. Tout d'abord, Pierre Jubinville, pas beaucoup de précipitations jusqu'à maintenant dans la Naudière.
Pas du tout, presque. Le Grand Joliette a jusqu'à maintenant été épargné par le verglas. Mm-hmm. On en annonce ce soir un petit peu. On sait pas trop si ça fait comme aujourd'hui.
On a vu du grésil aussi.
Beaucoup plus de grésil, finalement. C'est ce que va nous dire le président d'Hydro-Météo, Pierre Corbin.
Pas beaucoup de pluie verglaçante à travers le Grand Joliette depuis le début des précipitations, mais un équivalent d'eau de 7 mm en grésil est déjà tombé. Mais on attend quand même de la pluie verglaçante ce soir et la nuit prochaine dans le Grand Joliette. Les accumulations, les totaux là, devraient avoisiner peut-être un 20 mm de précipitation verglaçante. Ces précipitations vont cesser demain matin ou devenir mêlées brièvement là, d'un peu de pluie avant que la température se refroidisse.
Il y a des résidents qui ont été évacués à Saint-Roch-de-la-Chigan. Rien à voir là, avec la situation là, du verglas.
Non, 22 résidents de l'île Majot ont été évacués. C'est un embâcle qui a provoqué une inondation. L'inondation est limitée à ce secteur. Les équipes de la sécurité publique sont sur les lieux. L'état d'urgence a quand même été décrété, nous dit le maire Sébastien Marcil.
Ils sont venus près de 2 heures faire des relevés visuels. Ça nous a permis de déclarer une situation d'urgence pour le secteur. Et donc, on a eu la confirmation ce matin là, de la sécurité civile que les résidences touchées, donc le fait de déclarer la situation d'urgence, ben, fait en sorte que les résidences sont qui sont touchées par l'inondation sont admissibles au programme d'indemnisation de la sécurité civile. C'est pas grand-chose, là, faut baliser les attentes, il y a beaucoup de conditions, mais ça va aider néanmoins.
Après le Parti libéral et le Bloc québécois, les conservateurs qui présentent une candidate dans Terrebonne.
Oui, Adrienne Charles va apporter à nouveau les couleurs du parti. Elle a été candidate le 28 avril 2025. Rappelons que la Cour suprême a annulé la victoire d'une seule voix de la libérale Tatiana Auguste sur la candidate du Bloc québécois.
Coiffure pour hommes ou pour femmes, les propriétaires d'un salon à Longueuil là, vont en appel.
Oui, cette histoire qui a frappé le Québec, c'est le col de le dire.
Des coiffures non binaires.
Voilà, là, oui. Exactement. Alors, les propriétaires de la station 10 vont finalement contester leur condamnation à payer $500 à cette personne non binaire qui avait porté plainte pour discrimination. Les propriétaires auront le soutien financier de l'industrie des coiffeurs. On écoute Alexis Labrec, qui est copropriétaire.
C'est une question de gros bon sens. Là. Même sous nouvelle qui est répandue à l'international, je trouve que nos institutions judiciaires nous ont fait passer un peu pour des cons au Québec. Donc, c'est vraiment une question de principe. Là. C'est pas 500$ qui fait qu'on veut aller en appel.
Le Parti québécois présente ses recommandations pour abaisser le prix de l'essence.
Oui, le PQ veut mettre fin à la double taxation en réduisant la taxe sur les carburants ou encore la TVQ. Il compte aussi élargir le mandat de l'Office de protection du consommateur pour lutter contre les pratiques déloyales et anticoncurrentielles. On écoute le député Pascal Paradis.
Le cœur du problème, et on est toujours les seuls à constamment revenir là-dessus, c'est la concurrence. Là où il y a de la concurrence, le prix de l'essence est maintenu à des niveaux beaucoup plus acceptables au Québec. Et là où il n'y en a pas, puis les Québécois le savent, ben les prix augmentent beaucoup. Et donc, il faut agir sur la concurrence. C'est le cœur de l'affaire.
Et finalement, Pierre, 400 millions de barils de pétrole sont libérés.
Oui, ce sont des réserves stratégiques dans le contexte de la crise au détroit d'Ormuz. Les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie se sont entendus aujourd'hui à ce sujet. C'est la sixième fois qu'on y a recours. L'expert en énergie du Centre d'études et de recherche internationale, Yvan Klich, estime que ça va un peu soulager l'Asie.
400 millions de barils, c'est l'équivalent de 4 jours de consommation mondiale de pétrole. Comme l'Asie en consomme environ 40 millions, on parle là vraiment d'une dizaine de jours de consommation à un niveau normal. Mais nous ne serons pas à un niveau normal. Les pays de l'Asie ont déjà commencé à rationner leur consommation. Donc, ça représenterait peut-être 2 à 3 semaines de consommation pour les pays asiatiques.
Mais merci beaucoup à Pierre Jubinville. Et oui, bonne soirée. Prudence ce soir
peut-être
sur les routes.
Peut-être bon verglas,
on
sait pas.
Oui. On va surveiller de près parce que, en tout cas, si on regarde ce qui se présente au niveau météo, ce sera probablement ce soir que ça risque de verglacer pas mal.
Oui, mais déjà, les prévisions ont rabaissé.
Oui, oui. C'est un petit peu amoindri au niveau des quantités. Et tant mieux. Merci Pierre Jubinville. Il est 16h34.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel.
Oui, voilà, il est 16h34, bien branché sur CFNJ 99.1-88.9, Lanaudière PM. On va revenir sur le cas de l'échauffourée de la semaine passée à Repentigny qui impliquait des élèves de l'école secondaire L'Horizon et le surveillant d'un dépanneur. Et ça remet à l'avant-scène le phénomène de la violence aux abords des écoles et à l'intérieur des murs. François Morin a discuté avec le président du syndicat de l'enseignement de la région Les Moulins, Jean-Louis Bré.
Parce que l'école d'Horizon n'a pas le monopole de la violence. Là. En général, oui, depuis quelques années, là, on remarque une hausse de la violence, là, notamment au secondaire. Là, c'est sûr que ça n'a pas eu lieu sur le terrain de l'école. Là. C'était dans un dépanneur, mais c'est pas grave. Là. Je veux dire, ça donne un peu une idée quand même de ce qui peut se produire, là, des bagarres dans les cours d'école et des menaces envers les enseignants, des actes de violence. Les enseignants chez nous... nous disent que à la hauteur d'un enseignant sur deux est victime de violence dans l'année scolaire, puis là-dedans, 90% ça vient des élèves, puis il y a même un 22% qui vient des parents des élèves. Fait que on a peut-être un problème de société, là.
Il y a des messages qui ont été passés quand même par les autorités policières depuis quelques jours. Est-ce que c'est sûr que c'est un peu trop et un peu tôt évidemment pour tracer un portrait réel de la situation, mais est-ce qu'on a l'impression que le message commence à être entendu, pas nécessairement compris, mais entendu?
Entendu, je pense que oui. Là, je veux dire, les différents acteurs sont interpellés. Là, le centre de service, nous, via, c'est sûr que nos membres, quand ils se font, je disais tantôt, ils subissent des actes de violence, mais ils se font cracher dessus, ils se font mordre, ils se font insulter, ils se font menacer. Ben ça, c'est consigné, là, tu sais, ils peuvent remplir on appelle ça un rapport d'événement, là, puis dans le fond, ça se rend à nous. Donc on sait qu'ils ont été victimes de violence, ceux qui le font, parce qu'il y en a probablement qui le font pas, mais dans ceux qui le font, il y en a autour de entre 400 et 500 par année l'année passée. Là, cette année, on est en cours d'année, fait que j'ai pas les chiffres. Mais oui, on est. Puis ça, c'est toujours en augmentation là depuis. Je vous dirais la pandémie. On dirait que c'est comme un point tournant là. On ne sait pas trop ce qui a pu se produire. Je ne sais pas si c'est le fait d'être isolé plusieurs mois tout ça qui a créé ça. Mais il y a une augmentation puis de la violence. Puis on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux là. Tu sais, quand tu vois une bagarre là, au lieu de d'essayer d'arrêter la bagarre, tu filmes la bagarre, il y a un problème. Là. Fait que, ben, à votre question initiale, tu sais, est-ce qu'on en prend conscience? Ben oui, je pense que oui. Là. Puis là, ben, ce qui va rester à faire, c'est agir en conséquence.
Il y a le Parti québécois hier qui a fait une sortie justement là-dessus en promettant de serrer la vis davantage, de mettre en place là, des moyens de coercition et demande évidemment aux parents de participer. On peut pas être contre la vertu.
Une société, ça se verra. C'est un gros paquebot qui se verra pas à 180 degrés mais rapidement, là. Mais effectivement, le Parti québécois n'est pas encore au pouvoir, là, on verra. Là. Mais oui, tu sais, ça va être aussi, là, ça existe déjà, là, des plans pour contrer l'intimidation, puis la violence, puis tout ça, mais c'est peut-être le niveau de sanction qui n'est pas encore assez important, parce que des fois, ils ont l'air à s'en sacrer, les élèves. Là, c'est pas grave, avoir une journée de suspension chez nous. Il y a peut-être des choses à repenser dans tout ça, là, des sanctions un peu différentes. T'sais, puis là, je m'avance, là, mais tu sais, des travaux communautaires, je sais pas trop, ce serait peut-être des pistes à explorer parce que ça va prendre des sanctions un peu plus sévères pour convaincre les élèves là, qu'on ne peut pas faire ça. Puis continuer de conscientiser les parents. Là, tu sais, je le disais tantôt, l'accord des parents menace les profs. On est rendu dans un drôle d'endroit. Il faut agir. Puis bien que le Parti québécois dise qu'ils vont resserrer la vis, bien, on ne peut pas être contre.
C'est sûr que c'est pas une majorité de parents qui se fout un peu puis qui laisse complètement l'éducation dans le grand sens du terme, dans tous les sens du terme là à l'école. Il y a des parents qui sont sensibles, il y a des parents qui comprennent la situation, mais justement là, c'est peut-être en raison d'une minorité là que c'est difficile d'agir. Et moi j'ai déjà entendu parler de cas de parents qui poursuivaient des profs parce que ils ont décidé de sévir.
Oui, ben tu sais, on est un peu, là, je le disais, là, 25%, ça fait que on peut pas dire que c'est la majorité des parents, mais quand même, tu sais, autrefois, là, puis là, j'étais allé à l'école dans les années 80, quand le prof allait chez nous, quand le prof appelait chez nous, peut être sûr que j'avais l'affaire à me faire les fesses serrées après, là, tu sais, je veux dire, ma mère prenait jamais pour moi, là, elle prenait toujours pour les profs. Là, on dirait qu'aujourd'hui, c'est comme si c'est comme si les enfants avaient raison. Tu sais, le parent écoute l'enfant puis prend la part de l'enfant, même sans écouter des fois la version de l'enseignant. Non, on peut pas généraliser, mais puis comment on peut faire ça? Ben, je pense que la sensibilisation, la conscientisation, il faut continuer de le faire.
En terminant, M. Bré, est-ce qu'on doit conclure que malheureusement, les droits ont pris le pas sur les obligations?
Ben, on dirait, c'est une bonne ligne, celle-là, je l'aime, on dirait que Et puis je le dis de temps en temps, on dirait que les gens maintenant, ils ont que des droits, pas de devoirs. Tu sais, j'ai le droit, oui, mais viens en revanche avec ça, ou pas en revanche, mais en retour avec ça, des obligations, et on doit bien se comporter, mais ça prend un resserrement à l'école. C'est déjà commencé, là. Je peux pas dire que la CAQ a rien fait. C'est sûr que le vouvoiement, c'est beau, en tout cas, c'est un début, on va dire, là. Mais c'est pas ça qui va diminuer la violence dans les écoles, mais ben faut pas être découragé, il faut continuer de travailler là-dessus, puis continuer de marteler, d'informer les gens là, dans le fond que ça se fait pas, puis que ben, comme je l'ai dit, sensibiliser puis conscientiser. Je pense qu'on est dans une bonne voie, tout en faisant aussi des sanctions. Pardon, pour ceux qui font des actes de violence.
Voilà, c'est Jean-Louis Bré qu'on écoutait. Il est président du syndicat de l'enseignement de la région Les Moulins. François Morin lui a parlé un petit peu plus tôt. Il est à 16h41. Bon, c'est débuté les pannes d'électricité là, pour la région de la Naudière dans le sud de la région. Terrebonne, Mascouche, on parle maintenant là, de 30 000 clients qui sont privés d'électricité. C'est presque généralisé. On pourrait dire que c'est généralisé du côté de Terrebonne. Mascouche, c'est une partie là, de la municipalité de Mascouche là, qui est privée de courant. Donc, ça a débuté déjà. Donc, ces pannes dans le sud de la région de la Naudière. On surveille ça de près à CFNJ. Il est 16h41. Dans un moment, Pierre Paquette sera avec nous. Il sera question de l'étape pitoyable du NPD.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, épicerie Forêt, dépanneur Voisin Joliette, dépanneur Super Sagami Pétro-Canada et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonnie-Soirchel, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonnie-Soir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonnie-Soir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Le vol AB745 est annulé.
Évitez tout voyage en raison des manifestations.
À la suite du passage de l'ouragan, les hôtels sont fermés.
Vous prévoyez un voyage? Personne n'est à l'abri des imprévus. Protégez votre argent. Achetez votre voyage d'une agence qui a un permis du Québec. Vous profiterez gratuitement des avantages du fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Informez-vous au québec.ca/agence-voyage-protection. Un message du gouvernement du Québec.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
Du lundi au vendredi, entre 11h et 14h, la Fromagerie Victoria vous propose un délicieux menu midi. Soupe, repas et breuvages à partir de 14$. Rapide et abordable, la solution pour vos dîners pressés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury, à Berthierville.
Vous êtes entrepreneur et désirez faire connaître votre entreprise auprès des gens d'affaires du Grand Joliette? Ne manquez pas le souper tournant de la Chambre de commerce du Grand Joliette présenté par CFNJ en collaboration avec Promutuelle Assurance Lanaudière pour une expérience réseautage efficace et des plus performantes. C'est un rendez-vous le 25 mars prochain au Club de golf de Joliette et les billets sont en vente maintenant au ccjj.qc.ca.
Au concert du dimanche à CFNJ, Michel Rivard. Concert du dimanche, dimanche matin, 7h, à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre.
Oui, bonjour.
C'est difficile de croire que le NPD, le nouveau Parti démocratique, a déjà été aux portes du pouvoir en regardant son état actuel. Là.
Oui, mais il faut voir que depuis 2011, là, quand il y a eu la vague orange, j'en ai subi les conséquences, oui, je m'en rappelle très bien. Alors, depuis ce temps-là, le NPD a, sans élection après élection, perdu du poil de la bête. Mulcair avait réussi à éviter le pire, mais avec Singh, ça a été catastrophique. D'élection en élection, ça s'est réduit. Et aujourd'hui, ben, ils sont rendus 6, et puis on prévoit qu'il y en aura peut-être à peu près 4 après une prochaine élection. Alors, c'est vraiment catastrophique. Et quand on regarde la course au leadership actuellement, au NPD, il n'y a pas personne qui se démarque comme étant un Jack Layton.
On n'a aucun intérêt sur cette course à la chefferie-là. Les médias n'en ont pratiquement pas parlé. Ça se passe pas chez nous. On se sent tellement pas concerné par ça. Et là, il y a eu le passage de la députée néo-démocrate Laurie Igloot au Parti libéral. Ça a fait grincer des dents, évidemment, les grandes instances du NPD. Et tout le monde a la mine abattue au NPD, ça va de soi, sachant aussi qu'on va perdre bientôt Alexandre Boulris.
Ben oui, probablement. Là, il n'y a pas encore annoncé officiellement, mais tout est en place pour qu'il puisse se présenter pour Québec solidaire dans Rosemont. Alors oui, ça va très mal, d'autant plus qu'il y avait eu des efforts qui avaient été faits pour la garder, cette députée de Nunavik, parce que les discussions avec les libéraux, semble-t-il, duraient depuis longtemps. Alors, le caucus pré-sessionnel, là, c'est la réunion des députés avant la session, a eu lieu au Nunavik pour lui faire plaisir. Mm-hmm. Alors, on pensait avoir passé la paix avec ça, mais il semblerait que non. Et ce matin, on a appris la nouvelle. Ils sont plus que 6. Et donc, ça augure très mal pour la prochaine élection. D'autant plus, on en parlait il y a quelques secondes, il n'y a aucun des candidats actuellement à la chefferie du NPD qui parle français.
Alors,
ça, c'est pas possible de penser qu'un parti sur la scène fédérale ait un chef qui soit incapable de se parler en français. On a déjà Carney qui a de la misère, mais donc, ça s'est jamais vu, ça. Ça serait vraiment catastrophique. Depuis Diefenbaker, je me rappelle pas qu'il y en ait eu un qui n'était pas capable de dire au moins quelques mots en français.
La question que je me suis posée au départ, lorsqu'on entendait, bon, on a vu la défaite évidemment de Jack Meadsig et on l'a vu quitter le parti, je me suis tout de suite dit, ben pourquoi Alexandre Boulris ne se lance pas dans cette course à la direction du NPD? Ça aurait été un bon candidat à la chefferie.
Oui, et je pense qu'il a été approché, mais je pense qu'il a perdu un peu ses illusions vis-à-vis le NPD. Je pense qu'il va les perdre aussi vis-à-vis Québec solidaire, mais ça, c'est un autre débat. Je crois qu'il a été approché, mais les hautes instances du NPD, ils sont connectés sur l'Ontario, la Saskatchewan et pas le Québec. Alors, je pense que même s'il a été approché, il n'a pas été retenu, si on veut, par l'establishment du NPD. Alors, il aurait fallu qu'il aille un peu à l'encontre de l'establishment, puis je pense qu'il n'y avait pas le goût de se donner tout ce trouble pour un parti qui est on le voit bien, là, qui va prendre des années avant de se reconstruire. Actuellement, les sondages sont à 8%. Mmh. C'est le même pourcentage que le Bloc a juste avec le Québec.
Oui, alors, c'est ça.
Pour vous dire que le vote est tellement réparti un peu partout que, comme on le mentionnait tout à l'heure, les prévisions sont 4 députés pour le NPD, donc vont être rayés de la carte. Il n'y aura plus aucun statut comme parti à Ottawa. Donc, ça va être vraiment une traversée du désert assez difficile.
On le sait, avec Justin Trudeau à sa tête, le Parti libéral prenait beaucoup de terrain là du côté du NPD, puisque le Parti libéral de Justin Trudeau était à gauche. Mais avec Mark Carney a recentré le Parti libéral. Ça ouvre pas une porte, un terrain pour le NPD, ça?
Oui, théoriquement, oui. Mais en tout cas, on voit, ça se répercute pas actuellement dans les sondages à cause aussi peut-être du fait de la conjoncture avec Trump. Carney apparaît pour beaucoup de monde. C'est vrai pour les conservateurs, les bloquistes et les néo-démocrates, comme peut-être l'homme de la situation. Alors, c'est ça qu'il faudrait que les partis d'opposition soient capables de démontrer qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils sont capables de tenir tête à Trump. Et c'est pour ça que, même si elle a perdu un peu de sa saveur, l'élection partielle dans Terrebonne va être importante. Mm-hmm. Voir comment le Bloc va se positionner pour être capable de contrer le discours actuel du gouvernement à l'effet que jusqu'à un an et les libéraux qui sont capables de trouver une solution pour tenir tête à Trump, ce qui est faux, là on le voit bien, il se passe absolument rien, mais dans l'opinion publique, il y a beaucoup de monde qui ont acheté cette thèse-là, que c'est seulement les libéraux et Carney qui sont en mesure de tenir tête à Trump. Alors l'élection dans Terrebonne, même si elle n'a plus de signification aussi importante que c'était le cas, parce que maintenant, Carney et les libéraux sont à 2 voix de la majorité,
oui,
de la majorité.
C'est presque,
ils vont les avoir avec l'Ontario.
Oui, puis c'est presque assuré aussi avec le départ d'Alexandre Boulris. Si Boulris quitte pour Québec solidaire, ben il y a de fortes chances que ce soit un libéral qui prenne sa place là.
Oui, actuellement les sondages mettent les libéraux en tête dans Rosemont. Alors
mais c'est un comté, une circonscription que le Bloc a eu longtemps. Mm-hmm. Mais bon, effectivement, là, ça, c'est une possibilité que les libéraux puissent gagner aussi Rosemont. Mais comme je le mentionnais, là, avec les deux élections partielles en Ontario complémentaires, pour être plus exact, Carney est assuré d'avoir la majorité. Mais le problème est que le président de la Chambre est un libéral. C'est pas une obligation, mais ouais, dans ce cas-ci, il n'y a pas un parti d'opposition qui va vouloir laisser sa place, abandonner un de ses députés pour le poste de président. Donc, nécessairement, ça devrait être un libéral. Et donc, ça oblige, dans certaines circonstances, le président à voter. Puis, il y a une tradition à l'effet que le président de la Chambre vote pour le statu quo, c'est-à-dire pour garder le débat ouvert.
Ouais.
Donc, règle générale, ça nuit au gouvernement, parce que si le débat reste ouvert, c'est qu'on n'adopte pas le projet de loi que le gouvernement a déposé. Alors, il faut absolument qu'il aille plus loin que les 72 députés pour avoir au moins un 73e siège pour pouvoir justement s'assurer de ne pas avoir besoin du vote du président pour faire passer certains projets de loi.
Et puis, il faut le mentionner en terminant, le départ éventuel d'Alexandre Boulris pour Québec solidaire est très significatif pour le NPD, puisque ce serait le dernier député de la vague orange là, à quitter. Là.
Oui, puis au Québec, je pense que ça va prendre des décennies avant qu'il puisse se reconstruire avec le départ d'Alexandre Boulris.
Merci beaucoup, Pierre Paquette.
On s'en reparle lundi prochain.
Bonne fin de journée.
Bye. Bonne fin de
verre de là. Oui, surtout. J'en profite pour saluer et remercier nos collaborateurs à l'émission. François Morin, Régent Turgeon, Mathieu Bélanger, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette, ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée à Nicolas Bellemare qui sera là pour vous présenter le 5 à 7 trad. Dans les prochaines minutes, Hugo Valiquette s'en vient, La vie dans la naudière, à CFNJ. On est là demain à 16h. Bye-bye.